Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne vraiment au quotidien, notre boîte mail. On s'en sert tout le temps, mais on ne réfléchit pas toujours à ce que ça implique derrière. Est-ce que c'est notre petit coffre-fort numérique ou plutôt une porte entrouverte? Parce que bon, on le sait, hein, les gros services gratuits genre Gmail, Outlook, leur modèle économique repose souvent sur nos données.
Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant de creuser un peu.
Oui, et pour ça, on s'appuie sur une analyse hyper fouillée, une vraie cartographie en fait des pratiques des différents fournisseurs. C'est tiré d'un article du site signequantique.exe. Et franchement, ça met en lumière des différences fondamentales entre les services. Parfois, c'est surprenante.
Tout à fait. Il y a vraiment de grosses disparités.
Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre les mécanismes, les risques avec les messageries classiques qu'on utilise peut-être tous les jours, et puis voir s'il y a des alternatives plus axées sur la confidentialité. Alors, comment on s'y retrouve là-dedans? Comment faire un choix éclairé? C'est parti, on explore ça ensemble.
Allons-y.
Bon, pour commencer, l'analyse insiste sur une distinction clé, la différence entre une messagerie qui est chiffrée de bout en bout et une qui ne l'est pas. Alors pour les non chiffrés, et là on parle des géants comme Gmail, Outlook, Yahoo, mais aussi nos FAI français, hein, Orange, Free, le fournisseur il peut techniquement lire nos emails.
Oui.
Parce qu'ils sont stockés en clair sur ses serveurs, même si le transport est sécurisé, une fois arrivé là-bas, hop, c'est lisible. L'article prend l'image de la carte postale.
C'est une bonne image, oui.
Que le facteur peut lire. C'est assez parlant, je trouve.
C'est tout à fait ça. Et à l'opposé, on a les services chiffrés de bout en bout. Alors là, les exemples connus, c'est ProtonMail, Tutanota. Le principe est radicalement différent. Seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire le message. Pourquoi? Parce qu'il est chiffré avant même de quitter votre téléphone ou votre ordi.
Ah, d'accord.
Et il voyage sous cette forme illisible. Il arrive sur le serveur, il reste illisible. Pour reprendre la métaphore, c'est plus une carte postale, c'est une lettre scellée, avec un code secret que seul le destinataire possède. Le fournisseur, lui, il voit juste une suite de caractères incompréhensibles, du charabia, comme dit l'article. Il n'a aucune idée du contenu.
Ça, sur le papier, ça a l'air idéal niveau protection. Mais l'analyse pointe aussi des contreparties, des inconvénients, quoi.
Ben oui, forcément, pas l'ajouter.
Logique. Et la recherche dans les emails, ça aussi, c'est plus limité?
Oui, parce que le serveur n'a pas accès au contenu de texte pour l'indexer, comme le ferait Gmail, par exemple. La recherche est souvent plus basique, ou alors elle se fait localement sur votre appareil.
D'accord. Et il y a un autre point soulevé qui est assez critique, la récupération du compte si on perd son mot de passe.
Ah oui, ça c'est le point sensible. Avec un service chiffré de bout en bout, si vous perdez votre mot de passe, en général c'est terminé pour l'accès à vos anciens messages.
Carrément.
Oui. Parce que le fournisseur lui-même n'a pas la clé pour déchiffrer vos emails. C'est le principe du zéro access. Même eux ne peuvent pas accéder à vos données. C'est le prix à payer pour cette confidentialité maximale. Il n'y a pas de porte dérobée.
C'est bon à savoir, ça, quand même. Ça demande plus de rigueur de la part de l'utilisateur.
Clairement.
Et c'est là, justement, qu'on en vient au cœur du problème avec les messageries gratuites non chiffrées. Le fameux adage, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Nos emails, c'est une mine d'informations personnelles, hein, nos achats, nos voyages, nos contacts, nos projets, même nos soucis parfois.
Ah ben oui, c'est une photographie de notre vie privée en quelque sorte, une mine d'or pour qui veut l'exploiter.
Et comment ils l'exploitent alors? L'analyse détaille un peu les pratiques?
Oui, prenons Gmail par exemple. Google a officiellement arrêté de scanner le contenu direct des emails pour la pub en 2017. Il y avait eu pas mal de bruit autour de ça.
Oui, je me souviens.
Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'analysent plus rien. L'analyse continue, mais c'est surtout pour alimenter et améliorer leur fonction d'intelligence artificielle.
C'est-à-dire ?
Les suggestions de réponses automatiques, le smart reply, le tri des emails dans les différentes boîtes, l'ajout des événements à Google Agenda, tout ça, c'est basé sur une analyse du contenu de vos emails.
Donc, si je résume, c'est moins la pub dans Gmail le problème maintenant, mais plus le fait que l'analyse systématique de nos conversations nourrit l'IA globale de Google.
C'est une très bonne synthèse, oui. Ces données affinent les modèles de Google qui servent ensuite pour plein d'autres produits, y compris pour le profilage publicitaire général, bien au-delà de la messagerie elle-même.
D'accord. Et chez les autres grands acteurs ISC, Yahoo par exemple?
Alors, d'après l'analyse, Yahoo aurait une approche encore plus directe. Il scannerait activement les emails, surtout les emails commerciaux, pour créer des profils d'utilisateurs.
Genre grand voyageur ou fan de high-tech?
C'est ça. Et ces profils seraient utilisés pour la publicité ciblée, voire même revendus sous forme de segments d'audience anonymisés.
L'article mentionne qu'il y a une option pour refuser ça, opt-out, mais qu'elle n'est pas forcément évidente à trouver.
Ok. Donc Yahoo, c'est encore un autre niveau. Et Outlook de Microsoft ?
Microsoft dit ne pas scanner les emails pour la pub ciblée. Par contre, il collecte des données d'utilisation et affiche des pubs générales dans certaines versions. Le document suggère qu'il voit quand même Outlook comme un outil qui permet de collecter des données pour leur plateforme publicitaire globale. Donc même sans scan direct du contenu pour la pub, la logique de collecte reste là.
C'est plus subtil peut-être.
Un peu moins frontal que Yahoo, d'après ce qui est décrit, oui. Mais bon, ça reste de la collecte.
Et au-delà des algorithmes, il y a aussi la question de l'accès. Humain, est-ce que des gens peuvent lire nos emails ?
C'est une question importante. L'analyse rappelle un scandale de 2018. Des employés de boîtes tierces, comme Edison Software, une appli de mail assez connue, avaient lu des milliers d'emails d'utilisateurs Gmail.
Mais comment c'est possible ça ?
Tout simplement parce que les utilisateurs avaient donné des permissions très larges à ces applications, souvent en cliquant sur « Accepter » sans lire les petites lignes.
Le truc classique.
Voilà. Ça montre bien les risques quand on donne des accès à tout va.
Et en interne ? Chez Google ou Microsoft eux-mêmes ?
Techniquement, oui. Des employés avec des droits d'accès élevés, genre les administrateurs système, ont les moyens d'accéder aux emails stockés en clair. Bien sûr, c'est très encadré, il y a des procédures, des logs, mais la possibilité technique existe. L'article cite d'ailleurs un cas extrême, mais réel. En 2010, un ingénieur de Google a été viré pour avoir espionné les comptes Gmail et Gtalk d'ado.
Ah ouais, quand même.
C'est un cas isolé, heureusement, mais ça prouve que la vulnérabilité existe si les données ne sont pas chiffrées par l'utilisateur lui-même.
Flippant. Et il y a un autre accès possible, celui des autorités. Ça, c'est un gros morceau aussi.
Tout à fait. Et là, la géographie joue un rôle énorme. Les fournisseurs basés aux États-Unis, donc Gmail, Outlook, Yahoo, mais aussi iCloud Mail d'Apple, sont soumis à des lois comme le Patriot Act et surtout le Cloud Act.
Le Cloud Act, on en entend pas mal parler. C'est quoi le souci avec lui ?
Le souci, c'est qu'il permet aux agences américaines de demander l'accès aux données des utilisateurs, même si ces utilisateurs ne sont pas américains et même si leurs données sont stockées sur des serveurs en dehors des USA, par exemple en Europe.
Attends, ça veut dire que si j'utilise Gmail en France, mes emails stockés en Irlande pourraient être lus par le FBI sur demande sans que je le sache ?
C'est le risque potentiel que cette loi crée, oui. Et souvent, ces demandes sont assorties d'ordres de non-divulgation, gag orders. Donc, le fournisseur ne peut même pas prévenir l'utilisateur concerné.
Ah, c'est dingue, ça.
L'analyse rappelle d'ailleurs l'affaire Yahoo de 2015. L'entreprise aurait carrément développé un outil spécial à la demande du gouvernement US pour scanner tous les emails entrants en temps réel.
C'est de la surveillance de masse, là ?
Ça y ressemble fortement, oui. C'est un exemple de ce que ces lois peuvent autoriser.
Et en Europe, comment ça se passe ? On est mieux loti ?
En Europe, le cadre est différent, principalement grâce au RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Ça offre un niveau de protection assez élevé. Les fournisseurs européens, qu'ils soient en France, en Allemagne, en Belgique, sont soumis aux lois de leur pays. L'accès aux données par les autorités locales se fait sur réquisition judiciaire, dans un cadre légal qui est censé être plus transparent et protecteur des droits fondamentaux.
Donc, moins de risques de surveillance secrète à grande échelle.
On considère généralement que le risque est plus faible qu'aux US, oui. Mais le point essentiel que souligne l'analyse, c'est toujours le même. Si les emails ne sont pas chiffrés de bout en bout,
le fournisseur peut les lire.
Voilà. Et donc, il peut être obligé de les fournir si la justice ou une autorité compétente le demande. Le chiffrement E2E, c'est la seule vraie barrière technique.
Parlons maintenant des piratages. Les conséquences doivent être radicalement différentes aussi, non ?
Ah oui, c'est le jour et la nuit. Si les serveurs d'une messagerie classique, non chiffrée, se font hacker, on a l'exemple des piratages massifs de Yahoo ou des milliards de comptes touchés.
L'horreur.
Bah là, les pirates peuvent potentiellement récupérer tout le contenu des emails en clair. C'est la catastrophe assurée. Vol d'infos perso, bancaires, professionnels, usurpation d'identité, accès à d'autres comptes via la fonction « mot de passe oublié ». L'article utilise l'expression « single point of failure », un seul point faible, le serveur, et tout est compromis.
Et à l'inverse, si les serveurs de ProtonMail ou Tutanota étaient hackés ?
Même dans ce scénario catastrophe, les données volées seraient en grande partie inutilisables. Ce serait ce fameux « charabia ».
Ah oui.
Sans la clé de déchiffrement qui est liée au mot de passe de l'utilisateur et que le fournisseur n'a pas, le contenu des emails reste illisible. Les dégâts seraient très limités pour la confidentialité des messages. Les pirates pourraient peut-être récupérer des métadonnées qui a écrit à qui, quand, mais pas le contenu lui-même.
C'est quand même une sacrée différence de résistance. Mais attention, l'analyse apporte une nuance importante, il me semble.
Oui, très importante. Le chiffrement de bout en bout protège super bien contre les accès côté serveur ou pendant le transit sur le réseau. Mais il ne protège pas si c'est votre propre compte qui est compromis.
C'est-à-dire ?
Ben, si quelqu'un vous vole votre mot de passe, par exemple avec une attaque de phishing, ou si votre ordinateur est infecté par un logiciel espion qui enregistre ce que vous tapez.
Ah oui, d'accord.
Là, l'attaquant peut se connecter à votre compte comme si c'était vous, et il verra les messages déchiffrés, normalement. La sécurité de votre appareil, ordi, téléphone, et votre vigilance reste cruciale. Le chiffrement E2E n'est pas une solution magique contre tout.
L'utilisateur reste un maillon essentiel de la chaîne de sécurité.
Exactement.
Revenons un instant sur l'importance de la juridiction, le pays où est hébergé le service. L'analyse y revient souvent. C'est si crucial que ça ?
C'est un facteur déterminant pour le niveau de protection légale de vos données. Pour résumer ce que dit l'analyse, États-Unis. On l'a vu, le Cloud Act pose un risque d'accès extraterritorial pour les autorités US. C'est le point noir principal. Union européenne. France, Allemagne, Belgique. Le RGPD offre un cadre solide. L'accès par les autorités locales est encadré par la justice nationale. C'est généralement vu comme plus sûr pour la vie privée. Suisse, où est ProtonMail, elle a une réputation de forte protection des données. Elle coopère avec la justice internationale pour les affaires criminelles graves. Mais même là, un service comme Proton ne peut fournir que ce qu'il a. Des métadonnées limitées, une adresse IP si elle est enregistrée, mais jamais le contenu chiffré, car il ne peut pas le déchiffrer.
Donc, le conseil logique serait d'éviter les USA si la confidentialité est une priorité.
C'est ce qui ressort de l'analyse, oui. Choisir une juridiction européenne ou suisse réduit l'exposition à la surveillance de masse américaine. Et bien sûr, éviter les pays connus pour leur censure ou surveillance étatique massive, comme la Russie ou la Chine, ça va de soi.
D'accord. L'article donne aussi une petite astuce, toute simple, plus terre à terre, sur le choix de l'adresse email elle-même.
Oui, c'est du bon sens, mais c'est pas bête. Évitez d'utiliser systématiquement une adresse du type email protected pour tout et n'importe quoi.
Pourquoi ?
Ça révèle trop d'infos.
Ah oui !
Bah oui, ça donne immédiatement votre identité. Pour des inscriptions à des newsletters, des forums, des trucs pas essentiels, l'analyse suggère de préférer un pseudonyme, genre email protected ou un truc du genre.
Ça crée une petite séparation.
Voilà, une petite couche de confidentialité en plus, facile à mettre en place. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix.
C'est noté. Alors, si on veut aller plus loin, quelles sont les alternatives concrètes que l'analyse met en avant ? Les services plus respectueux ?
Il y en a plusieurs qui sont souvent cités comme des références. ProtonMail, basé en Suisse, revient très souvent.
Oui, on l'a déjà mentionné.
Il propose ce chiffrement de bout en bout zéro access, donc même eux ne peuvent pas lire les emails. Il y a une offre gratuite avec un stockage limité au début, genre 500 mégas ou 1 giga, et il se finance par les abonnements payants. C'est un modèle économique sain et leur réputation est très solide.
Ok, pour Proton, d'autres options ?
Tutamopta, qui est basé en Allemagne, très similaire à Proton dans l'esprit. Chiffrement E2E fort, politique zéro tracking, pas de suivi des utilisateurs. Ils ont aussi une offre gratuite avec 1 giga et se financent par abonnement. Le fait d'être en Allemagne les place sous la protection du RGPD. C'est aussi une option très réputée.
Allemagne, Suisse et ailleurs en Europe ?
L'analyse cite aussi Mailfence, qui est en Belgique. Eux, ils proposent une suite un peu plus complète. Email, mais aussi calendrier, contact, stockage de documents. Leur chiffrement E2E utilise OpenPGP, qui est un standard ouvert. C'est l'utilisateur qui gère ses clés, ce qui donne plus de contrôle, mais demande peut-être une petite courbe d'apprentissage au début. Ils ont aussi une offre gratuite.
Et les acteurs français mentionnés, Mailo et La Poste.net, c'est différent ?
Oui, c'est important de le préciser. Eux, ils ne proposent pas de chiffrement de bout en bout par défaut, comme Proton ou Tutanota.
Ah, d'accord.
Par contre, ils mettent en avant leur engagement sur la vie privée. Pas de scan des emails pour la pub, respect du RGPD et surtout hébergement des données en France. C'est un compromis différent, moins de protection technique pure contre l'accès au contenu sur le serveur, mais un cadre légal européen et un modèle économique qui n'est pas basé sur l'exploitation publicitaire directe des emails.
C'est une autre approche. Ce qui est intéressant avec Proton, Tutanota, Mailfence, c'est vraiment ce modèle économique différent.
C'est le nœud du problème en fait.
Leur business, c'est de vendre un service de qualité et sécurisé à des utilisateurs qui choisissent de payer pour ça. Leurs intérêts sont donc alignés avec ceux des utilisateurs qui veulent protéger leur vie privée. Ils n'ont pas besoin de fouiller dans les emails pour gagner de l'argent. L'offre gratuite, c'est un produit d'appel. Mais c'est la base payante qui fait tourner la boutique.
C'est plus transparent finalement. Si on devait faire un bilan rapide des gros acteurs selon cette analyse, juste pour fixer les idées.
Allez, une synthèse rapide. Gmail, super pratique, super intégré, mais gros compromis sur la vie privée. Analyse pour l'IA, profilage global, Google et le risque du Cloud Act américain.
Clairement.
Outlook, interface moderne, bien intégrée à Microsoft, moins bourrin sur le scan pour la pub que Yahoo pouvait l'être, mais ça reste non chiffré par défaut et toujours sous juridiction US.
Yahoo, là l'analyse est assez dure, clairement déconseillée si la vie privée est une priorité. Scan actif pour la pub, l'historique avec la NSA et les piratages géants, et juridiction US aussi.
Ok, message reçu pour Yahoo.
iCloud Mail, Apple. Ils ne scannent pas les emails pour la pub, c'est un bon point. L'écosystème Apple est souvent perçu comme plus protecteur. Mais attention, les emails ne sont pas chiffrés E2E sur leur serveur et ça reste une entreprise américaine soumise au Cloud Act.
D'accord, c'est plus clair. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient, Sam ? Quel est le message principal ? Le message clé, je pense, c'est que choisir sa boîte mail, c'est pas juste une question technique. C'est vraiment un arbitrage à faire entre la facilité d'utilisation et le niveau de confidentialité qu'on souhaite. Les grands services gratuits sont très pratiques, intégrés, mais ça vient avec un prix, l'exposition potentielle de nos données, que ce soit au fournisseur lui-même, à ses partenaires, aux autorités ou en cas de piratage.
Et de l'autre côté ?
De l'autre côté, les services chiffrés de bout en bout nous redonnent vraiment le contrôle sur le contenu de nos messages, mais ça implique quelques petites contraintes fonctionnelles et la responsabilité de bien gérer son mot de passe.
Et concrètement, est-ce qu'il faut tout plaquer et passer à ProtonMail demain matin ?
Pas forcément. Le plus important, c'est d'être informé de ces différences pour faire un choix conscient. L'analyse suggère une approche assez pragmatique, en fait.
Laquelle ?
Pourquoi utiliser plusieurs boîtes mail ? Une adresse classique ? Peut-être celle de votre FAI ou même un Gmail. Pour les trucs courants, les newsletters, les confirmations de commandes, les choses peu sensibles, quoi.
Et une autre pour le perso.
Exactement. Et une adresse chiffrée E2E, chez Proton, Tutanota ou un autre, pour la correspondance vraiment personnelle, professionnelle ou tout ce qui est confidentiel. Diversifier, ça peut être une bonne stratégie.
C'est une idée intéressante, ça.
Et un dernier conseil, mais qui est martelé dans l'analyse et qui vaut pour tous les services, chiffrés ou non, activer la double authentification. La validation en deux étapes, 2FA, appelez ça comme vous voulez.
Ah oui, ça c'est la base.
C'est vraiment une couche de sécurité essentielle pour protéger l'accès à votre compte, même si quelqu'un arrive à récupérer votre mot de passe. Faut vraiment le faire partout où c'est possible.
Très bon rappel. Bon, pour finir, cette discussion sur nos emails, ça soulève peut-être une question plus large, non ?
Probablement.
Au-delà de la technique, c'est la question de la valeur qu'on accorde à notre vie privée numérique face à la facilité, à la gratuité apparente de tant de services. Où est-ce qu'on place le curseur, chacun d'entre nous, entre le confort du partage, même implicite, de nos données, et puis le besoin ou l'envie de garder un jardin secret numérique, vraiment secret.
C'est une excellente question pour conclure. Ça mérite réflexion, bien au-delà de la simple boîte mail.
Tout à fait. Une réflexion à poursuivre.